C'est comme des gouttes d'eau, plusieurs petits plaisirs, ensemble fait le bonheur.
Pouvoir trouver de meilleurs outils, c'est l'espoir de pouvoir faire société.
Tous pareils ou presque, le podcast de l'autisme et de la neurodiversité qui aide à faire un pas de côté. Autisme et bonheur. Est-ce qu'on se fait une idée différente du bonheur quand on est autiste? Et ce serait quoi dans ce cas? Je suis bien consciente que poser une telle question n'a pas beaucoup de sens, tant le concept est large et les situations multiples. Et pourtant, ces questionnements autour du bonheur, du bien-être, de la qualité de vie, ont marqué mon parcours de parent depuis le diagnostic de ma fille. Et elles sont au cœur des réflexions de la plupart des parents que je côtoie. Alors je me suis interrogée sur ce qui rend heureux quand on est neuroatypique. À travers les témoignages de Colline, Lali, Rokia, Sylvie, Arthur, Erwan et Tristan, j'ai tenté de recueillir les petits et grands bonheurs de leur vie d'autiste. Voici un peu de leur histoire. Quand j'ai demandé à Sylvie, diagnostiquée autiste à 51 ans, ce qu'était pour elle la définition du bonheur, voilà ce qu'elle m'a répondu.
Déjà, le bonheur, pour moi, c'est un concept abstrait que je trouve pas très intéressant. Si ce n'est peut-être, par exemple, pour un sujet de philo. Donc, pour moi, ça veut pas dire grand-chose. Je suis désolée.
Bon, pas très bien partie cette enquête. Sauf que, en creusant un peu, il y a peut-être encore mieux que le bonheur.
Le bonheur, on va dire qu'il est là, comme ça, voilà, pour ce que ça vaut. Mais très, 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 très largement au-dessus. Mais loin, loin, il y a l'ultime, il y a l'extase, il y a la synesthésie. Tu sais ce que c'est, la synesthésie? Oui, tu sais, comment l'expliquer? C'est quand plusieurs canaux sensoriels ou sens se croisent. Par exemple, certains vont voir des couleurs ou penser à des couleurs par rapport au jour de la semaine. Le lundi, il est vert, le mardi, il est ceci, il est cela. Dans mon cas, quand j'entends certaines résonances harmoniques, c'est pas des notes, hein, c'est des résonances harmoniques, je visualise soit des paysages de mer, MER, soit des bulles qui brillent et qui sont mouvantes. Et ça me met dans un état de, je sais pas, de bien-être. C'est au-delà du bien-être, quoi. C'est quelque chose d'exceptionnel.
Savoir ce qui rend heureux n'est pas évident non plus pour Colline, diagnostiquée à l'âge de 21 ans.
C'est compliqué. La définition du bonheur en tant qu'autiste, quand t'as passé ta vie à faire semblant, c'est très très difficile. Parce qu'on peut pas... Qu'est-ce qui nous rend heureux? C'est une question qui est même très compliquée, déjà, pour beaucoup de personnes. Et pour les personnes autistes, ça peut être une passion, mais il faut vraiment qu'elle soit dénouée de toute culpabilité. Ce qui, à mon âge, est difficile quand j'ai travaillé autant d'années dans ma vie à l'associer à une culpabilité. Donc ce serait plutôt ça, le bonheur. Trouver un équilibre entre intérêts spécifiques et gestion de la vie ordinaire.
Ça me fait penser à des sujets de philosophie au bac.
La réponse d'Arthur, 27 ans, me fait prendre conscience que la définition du bonheur, c'est parfois très abstrait.
Je pense que le bonheur, il se rapproche finalement beaucoup de ce que les civilisations anciennes ont appelé l'ataraxie. Le fait de ne pas être sujet à des troubles. À titre très personnel, je pense que le bonheur, il se construit dans finalement faire la paix avec soi, faire la paix par rapport à certaines difficultés qu'on peut être amené à rencontrer en tant que personne concernée.
Faire la paix avec soi-même, c'est aussi pour Lali, 47 ans, une des conditions pour être heureux. Et son diagnostic y a largement contribué.
Le bonheur tel que je le vis aujourd'hui n'est pas celui que je vivais avant le diagnostic, par exemple. Parce qu'aujourd'hui, je suis en capacité de savoir ce qui va me faire du bien. Et j'essaye de moins en moins de me forcer à faire des choses qui correspondent à la norme, vilain mot, mais qui me font du mal. Alors que jusqu'au diagnostic, j'essayais de coller à cette image de bonheur ou de normalité du bonheur qu'ont les neurotypiques. Donc le bonheur pour moi, de façon très simple, c'est de réussir à être en phase avec moi-même et à m'aimer tel que je suis. Gros sujet.
Pour Tristan, 28 ans, le bonheur, ça peut être une notion assez simple.
La question du bonheur, pour moi, c'est comment éprouver du plaisir au quotidien. Pour moi, quelqu'un qui est heureux, c'est quelqu'un qui est content d'être là, c'est quelqu'un qui est content de son quotidien, aussi modeste et simple soit-il. Hein. On peut trouver le bonheur dans des choses assez simples, en fin de compte. Hein. Je pense que des personnes autistes sont assez expertes là-dessus, d'ailleurs.
C'est vrai qu'en discutant avec des personnes autistes, on se rend compte à quel point les petites choses de la vie quotidienne peuvent être source de bien-être et de plaisir intense. Alors, c'est quoi, par exemple, ces petits bonheurs du quotidien ?
Alors, les petites choses qui me font du bien, c'est...
Rokia, 55 ans.
Avoir une conversation enrichissante, très intéressante avec quelqu'un que je connais ou que je ne connais pas, ça me réchauffe le cœur parce que j'aime l'humain, j'aime beaucoup savoir comment fonctionnent les autres, même si je ne comprends pas tout. Le mieux, c'est quand on est sur la même longueur d'onde. Alors là, c'est comme un flow. Ça m'est arrivé rarement, mais quand ça arrive, c'est du bonheur pour plusieurs semaines. En fait, pour moi, c'est comme des gouttes d'eau, plusieurs petits plaisirs, ensemble fait le bonheur. Et du coup, c'est par exemple aller en bibliothèque. Je vais depuis quelques années à la section enfants. D'abord parce que c'est des livres que je trouve plus faciles à lire, parce que j'ai des problèmes cognitifs, mais aussi parce qu'il y a beaucoup d'illustrations et beaucoup de livres super intéressants en fait. Et puis, j'aime bien voir les petits-enfants et ils entendent, même si je mets mon casque, parce que des fois, ils sont bruyants, donc j'essaie d'éviter les mercredis, par exemple. Un autre petit plaisir, c'est manger quelque chose de très bon. Je suis très gourmande, mais j'aime les choses de très bonne qualité. Quand je découvre un nouveau truc, Par exemple, cette semaine, je suis passée devant un fromager. Normalement, je n'ose pas rentrer. Et en plus, j'ai une allergie au lactose. Et il se trouve que ce fromager, il n'était pas du tout snob ou imbu, ou il ne me regardait pas comme si je tombais de la lune, ou genre, j'aurais préféré qu'elle ne vienne pas, celle-là. Au contraire, il était souriant, mais c'était un vrai sourire. Ce n'est pas le sourire commercial. Et je lui ai demandé tout doucement, parce que bon, j'avais le cœur qui battait beaucoup, qu'est-ce que c'était. Et il m'a expliqué qu'en fait, c'est une spécialité basque qui est une sorte de gelée de coin. Et quand je suis rentrée chez moi, après, j'ai pris la confiture de coin qui était au-delà de mes attentes. Et ça m'a fait un très, très... Et aussi l'accueil, parce que pour moi, tout est lié. Et cet homme, il avait un regard très doux.
Des petits bonheurs du quotidien, quand je prends mon thé à 17h30 parce que ça me recharge et ensuite je suis super en forme et donc ça c'est un moment de bonheur, ça c'est le quotidien. Mais un bonheur, on va dire, simple et modeste, pas moins efficace pour autant. Si, le bonheur, mon intérêt spécifique, ça c'est un... Oh, ça me fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien quand je suis à mon intérêt spécifique. Je suis fascinée par les expressions visuelles des gens. Et donc, je vais faire une fixation, par exemple, sur un haussement de sourcil qui va me fasciner. Et je vais essayer de trouver l'explication à ce haussement de sourcil. Donc, je vais me faire des histoires, des films. Et ça me fait voyager et j'adore ça. Donc, si tu veux, je vais, pour aller dans le détail, je me repasse en boucle ces clips vidéo. Donc, déjà, OK, j'adore la musique. Jusqu'au moment, alors là, d'extrême, super top. Ou par exemple, la personne va soit hausser un sourcil ou faire un petit geste comme ça. Et alors là, je suis fascinée et ça me procure un bien incroyable. En fait, ça me fait voyager.
Colline aussi voyage quand elle est dans ses intérêts spécifiques.
Alors moi, c'est principalement la photographie d'architecture. Donc c'est assez particulier. Avant, c'était les paysages, maintenant, c'est les bâtiments. C'est vraiment à travers l'appareil photo que je perçois mieux l'environnement. Donc ça va être des milliers de photos du même objet. Et après, il faut savoir faire du tri. C'est des sentiments extrêmement intenses qui sont très agréables. Adolescente, quand j'essayais d'expliquer ça, j'essayais plus une forme d'extase. Donc c'est une forme de bonheur qui est difficile à atteindre pour les gens qui ne sont pas autistes, à mon avis, voilà, ou sévèrement passionnés par quelque chose. Mais ça va être vraiment de se perdre dans la photographie. Ça va être la texture de la lumière, le degré d'humidité, les zones de contraste. Et ça peut vraiment varier sensoriellement tout. Et je suis dans la photographie et c'est très compliqué de me faire sortir de la chose. Donc c'est des moments qui sont, comment dire... C'est des moments qui sont addictifs aussi. C'est pour ça que c'est très compliqué d'en sortir quand j'y entre complètement.
Pour Erwan, comme pour Arthur, ces moments de bien-être sont plutôt liés à des moments d'échange privilégiés.
Il y a un truc qui ne m'arrive pas au quotidien, qui m'arrive trop rarement à mon goût, qui m'arrive de plus en plus souvent depuis que je suis diagnostiqué. C'est que je passe des moments fantastiques avec certaines de mes connaissances. Et ces moments, généralement, c'est des moments à deux. Souvent dans des parcs, et On peut rester 2, 3, 4 heures à discuter avec des grands temps de parole laissés à l'écoute et à la parole de l'un et de l'autre. C'est généralement des gens avec qui j'ai beaucoup pratiqué et qui m'ont déjà pratiqué. Et la communication est extrêmement fluide et magnifiquement satisfaisante, je pense, autant pour eux que pour moi. Et le diagnostic, ça a tout changé pour moi. Le fait d'avoir une meilleure compréhension de ma mécanique et de pouvoir trouver de meilleurs outils pour affronter tout ça, ça change tout. C'est l'espoir de pouvoir faire société. Voilà, ça c'est un de mes moteurs, par exemple.
Alors, je dirais que les petites choses qui me font du bien, c'est d'avoir en fait des temps comme ceux-là, comme actuellement, où on est dans un échange respectueux de part et d'autre. Quand j'ai la possibilité, comme aujourd'hui, voilà, de pouvoir m'exprimer sur un certain nombre de sujets qui me tiennent à cœur. Il y a des moments où j'ai besoin d'être entre guillemets seul, mais c'est vrai que les moments d'interaction, j'aime beaucoup. Rencontrer des nouvelles personnes. J'aime bien rencontrer des gens qui ont quelque chose à dire et qui souvent soit ne sont pas entendus, soit ne sont pas écoutés, soit ne sont pas pris en considération. Moi, j'ai vraiment à cœur de pouvoir entendre, mais aussi écouter.
De façon très claire, la musique est un élément fondamental pour moi. J'ai tout le temps de la musique dans les oreilles. Ça me permet de m'extraire de la cohue externe. Ça me permet aussi de me reconnecter à moi-même. Alors, j'ai une façon d'écouter la musique qui est assez atypique, je crois. Je vais d'abord écouter un morceau qui va m'interpeller, qui va me plaire. Et après, je vais écouter ce morceau, mais des centaines de fois. Et mon compte Spotify me rappelle tous les ans, en décembre, combien de fois j'ai pu écouter 5 morceaux dans l'année, mais vraiment des centaines de fois, parce que je vais décortiquer chaque ligne mélodique, chaque instrument, chaque voix, chaque choré qui va être dans le morceau. Et donc, c'est quelque chose qui est très structurant pour moi, et je m'imagine des vies sur chaque ligne mélodique de la musique. Donc la musique, je ne peux pas m'en passer. D'autres choses qui me font du bien, c'est le sport, beaucoup, parce que pareil, ça me reconnecte à moi-même et surtout, ça me permet de m'extraire des autres. Quand je fais du sport, je suis juste avec moi-même. Donc, je fais des sports qui sont solitaires, la course à pied, de la musculation, de la marche aussi beaucoup. Et ce sont des moments où, en fait, je ne pense pas à grand-chose. Je ne suis pas en train de ruminer sur ce que je dois avoir l'air d'être pour faire plaisir aux autres. C'est juste des moments où je peux me dépenser physiquement, et ça c'est très important aussi parce que je suis sujette à énormément d'anxiété au quotidien. C'est un moment où peu importe si j'ai des stéréotypies, peu importe si je me balance, si je danse, c'est un moment de plénitude. Et le fait de ne pas avoir à masquer en fait dans ces moments-là, c'est sûrement ce qu'il y a de plus épanouissant.
Il y a un truc qui est génial avec les personnes autistes, c'est des intérêts spécifiques. Donc, c'est vraiment des passions, ce que les personnes autistes adorent. Et on est beaucoup de personnes autistes à avoir des intérêts spécifiques assez simples, en fin de compte, ou en tout cas assez faciles à pratiquer. Et ce qui fait que dans une journée, dans une semaine, quand on a accès à nos loisirs, eh ben, ça nous fait plaisir. Moi, par exemple, j'ai un de mes intérêts spécifiques depuis tout petit, c'est le feu. Donc, une semaine de vacances où je suis dans la maison de mes grands-parents avec une météo pourrie, c'est une semaine où je peux faire du feu, donc c'est une semaine où je suis content. Je suis très vintage, hein, donc j'adore la cheminée de ma grand-mère, ouverte, qui chauffe rien, mais où j'ai tous les outils pour faire à manger dedans. Voilà, je viens de faire rénover la crémaillère à l'ancienne pour pouvoir accrocher mon chaudron et faire ma soupe au feu de bois, donc voilà. Il y a un côté relaxant, il y a un côté apaisant. D'ailleurs, accessoirement, le feu, c'est quelque chose d'extrêmement apaisant, hein. C'est quelque chose d'utile aussi, parce que je vois beaucoup de personnes qui ont des loisirs que je trouve, moi, complètement inutiles. Je conçois pas, moi, d'aller à la salle de sport. C'est un truc, moi, que je trouve totalement inutile. Courir après un ballon aussi. En revanche, rouler 30 stères de bois pour ma cheminée, c'est utile. C'est physique. On se prend une bonne suée. On est bien, bien, bien capoute le soir. C'est quelque chose d'utile.
Que ce soit le plaisir intense des intérêts spécifiques ou les moments de partage et d'échange authentiques, Ces petits bonheurs, eh ben, ils font du bien. Et ils permettent de se ressourcer, surtout quand le quotidien est difficile. Pour aller plus loin, j'ai eu envie de poser la question. Ce serait quoi pour vous votre idéal de bonheur ?
Avant que j'intègre le concept de ce que pouvait penser autrui, c'était beaucoup mieux. J'irais jusqu'à mes 11 ans, où c'est le moment où j'ai vraiment commencé à théoriser avec mes parents le fait qu'il allait falloir que j'apprenne à faire semblant beaucoup plus vite que prévu. J'étais très heureuse jusque-là. Et à partir de 11 ans, bah là, l'opinion d'autrui, ça devient vraiment essentiel en tant qu'adolescent. Donc là, j'ai compris que si je voulais être intégrée, avoir des amis et ne pas être harcelée, il fallait que j'arrête mes centres d'intérêt. Voilà. Donc tout le collège, c'était une longue bataille pour ne pas réagir quand quelque chose stimulait mes intérêts personnels en cours. Donc on parlait de la géographie du Japon, j'adorais la culture japonaise, mais j'allais pas intervenir pour éviter les problèmes. Voilà. Même moi, au moment de mon diagnostic, j'avais complètement oublié c'était quoi mes centres d'intérêt en fait. J'étais tellement focalisée sur faire semblant que dès que j'avais un moment sur mes centres d'intérêt, je me forçais à arrêter. Enfin, c'était... Donc j'avais plus de moments de plaisir, j'avais plus tout ça. Et lorsque j'ai été diagnostiquée, ça a été un débat avec la psychiatre du fait que j'avais le droit d'aimer mes centres d'intérêt. J'en arrivais à détester quelque chose que j'adorais. Enfin, après, maintenant, je dirais que je réapprends depuis le diagnostic à être un peu plus heureuse, même si je dirais que c'est... Il y a eu un renoncement intense au bonheur quotidien que je pouvais ressentir. Et mon idéal de bonheur serait de pouvoir faire l'application concrète de quelque chose qui me passionne, la communication. C'est très pratique pour faire semblant la communication. Ouais, mais donc du coup, pouvoir appliquer ça et aider d'autres personnes avec, pour moi, ce serait, je pense, la voie professionnelle la plus agréable, on va dire. Donc si je pouvais faire quelque chose comme ça, mon centre d'intérêt, mais mélangé au fait que ça m'oblige à interagir avec autrui pour pas perdre mon niveau en interaction, bah du coup, ça me satisfait. Et avoir suffisamment de temps pour être dans mes centres d'intérêt. Donc actuellement, je regarde où est-ce que je peux travailler par rapport à mes centres d'intérêt linguistiques.
Tu vas dire que je tourne en boucle, hein, ce qui ne serait pas étonnant de la part d'une autiste, mais c'est pouvoir vivre et évoluer sans me questionner à chaque seconde sur ce qui se passe ou sur ce que les gens pensent ou sur ce qu'il faut faire. Et donc, juste pouvoir évoluer sans se questionner à chaque instant, c'est un rêve absolu. Et même si je te disais que je m'autorise aujourd'hui à avoir cette décontraction, à m'autoriser à être moi-même, finalement, c'est un vœu pieux, parce que je crois que je ne suis pas si capable que ça.
Les périodes où j'étais en harmonie avec moi-même, je pense que c'est quand j'ai commencé mon activité indépendante, dans le sens où je pouvais organiser mon emploi du temps comme je le souhaitais, moduler mes horaires de travail, en fait, pouvoir être à l'écoute de mon état de fatigue. Pour moi, le summum du bonheur, c'est à la fois... Alors, j'avais vu un mot, je ne sais plus le mot. Il y a un mot en français, en fait, qui exprime le fait que tu sois heureux, que les gens qui comptent pour toi soient heureux. Et je sais que tu as un mot, je crois que c'est la complexion ou voilà, quelque chose comme ça. Et pour moi, c'est ça, le summum du bonheur.
Moi, je suis en train de découvrir le bien-être que ça apporte de pouvoir exercer son agentivité. C'est-à-dire sa capacité à agir sur le monde, les choses, les êtres, pour les modifier ou les transformer ou les faire ou les influer. Déstigmatiser la question de l'autisme, c'est un truc qui me tient à cœur, par exemple. Trouver les moyens de le faire, réussir à le faire, c'est réussir parfois à le faire. Dans mon expérience récente, il y a énormément de personnes qui m'ont dit avoir été amené, après nos discussions, à se questionner sur leur rapport à l'altérité, ou parfois sur eux-mêmes. Et c'est un sentiment incroyable, par exemple.
Alors moi, il y a quelques années, j'étais un peu puriste, je disais aller élever des chefs dans le Larzac, ça, voilà. Et puis aujourd'hui, ben j'ai un métier un peu social qui me plaît beaucoup, donc c'est vrai que je suis plus du tout dans un délire de me couper totalement d'une civilisation, etc. Je sais que moi j'ai besoin d'avoir de la place, je me vois pas vivre en appartement grand, j'ai besoin d'avoir un extérieur, j'ai besoin d'avoir une cheminée, probablement des animaux, donc quelques poules, un chien, pourquoi pas une chèvre, enfin voilà, et des outils, donc un atelier. Ça, c'est des choses qui me plaisent. Déjà, avec cette base-là, moi, j'ai de quoi être heureux, quoi. J'ai pas besoin d'avoir un ranch à 6 millions de dollars dans la Californie américaine. C'est pas du tout un truc qui m'intéresse, quoi.
Mon besoin premier, c'est de me sentir en sécurité, que ce soit l'environnement ou que ce soit avec les personnes. Quand je me sens en sécurité, après, il y a plein de choses qui peuvent se déployer derrière. Me sentir en sécurité, c'est vraiment le premier truc. Après, c'est de me sentir compris, puisque je me suis sentie très souvent mal compris. Du coup, c'est douloureux de me sentir mal compris. C'est vraiment une douleur physique et psychique dont je n'étais pas consciente avant, mais ça me fait cet effet. Du coup, pour moi, c'est très important de me sentir en sécurité, ensuite de me sentir comprise, accueillie, toutes ces choses en fait que je n'ai pas eues pendant très longtemps. Du coup, quand ça arrive, c'est très spécial pour moi. Et quand ça arrive, quand ça vient de personnes où je me sens en sécurité, ben, je m'attache aussi à ces personnes. C'est un besoin très fort et quand il est là, satisfait, ça me rend libre.
Chacun a sa propre conception du bonheur. Mais en tant que parent ou proche d'une personne autiste, comment favoriser ce bien-être? Comment aider à avoir la meilleure qualité de vie possible, malgré les difficultés? Je me suis demandé quel message, finalement, faire passer aux personnes autistes et à ceux qui les accompagnent.
Bon, déjà, je dirais aux accompagnants, aux parents notamment, occupez-vous bien de vous. Parce que pour pouvoir s'occuper d'autres, il faut bien s'occuper de soi. C'est un peu comme cette image que quand vous êtes en avion, l'avion est en détresse et on demande aux parents de d'abord se mettre l'oxygène avant de mettre sur les enfants. Et je ne sais pas, je ne peux pas parler pour toutes les personnes autistes, mais je pense que beaucoup de personnes sont très sensibles en fait à, par exemple, si le parent n'est pas bien, ce qui est normal, ce qui arrive. Il y a peut-être un sixième sens, je pense, pour les personnes, mais on va le sentir. Et du coup, qu'est-ce que ça fait? Ben, ça enlève ce sentiment de sécurité, surtout si on ne sait pas. Mais je ne demande pas aux parents d'être parfaits. Par exemple, si les parents ne sont pas bien, de le dire. De dire, par exemple, oh là là, je suis en colère parce que au travail, c'est passé ça ou parce que ça. Et du coup, je peux mettre un « Ah, ok, elle n'est pas en colère contre moi parce que j'ai bien senti de la colère. » Mais si le parent il me dit « Oh non, tout va bien, je suis confused parce que je ressens quelque chose et j'entends autre chose. » Et d'autre part, ça permet aussi de dire pour les enfants et les adultes d'apprendre que c'est ok de ne pas être bien.
Personnellement, pour les adolescents, je pense que le mieux, c'est de pas faire comme vos aînés qui ont aujourd'hui 25, 30 ans et plus. C'est surtout si vous avez des centres d'intérêt, ne partez pas du principe que c'est une honte ou que c'est un tort ou un défaut. Gardez-les sous la main. C'est très précieux et ça vous permettra d'être stable pour le restant de vos jours. Psychologiquement, c'est important d'avoir des choses qu'on aime. Ça marche pour les gens non autistes. Ça doit marcher pour les autistes aussi. Et ensuite, faut aller vers les autres, mais se préserver soi. Donc, mettre des barrières horaires si c'est ce qui permet. Par exemple, à partir de 17h, moi, j'ai décidé que je n'interagissais plus avec qui que ce soit. Donc, à 17h, c'était fini. Et ça permet de mieux vivre, on va dire, les interactions sociales, tout en acceptant les critiques.
Quand vous faites la paix avec vous-même et que vous dites, en fait, bon, ben, c'est comme ça, et je fais de mal à personne, ben, en fait, le bonheur vous appartient. Et donc, ne laissez pas les autres vous dire comment vous devez être heureux. Le bonheur vous appartient, vous ne devez pas laisser les autres décider pour vous ce qui est bien pour vous ou pas. Et ce n'est pas parce qu'il y a des normes qu'on est obligé de se faire violence en les appliquant. On peut être heureux avec des bonheurs simples. Soyez vous-même, osez être vous-même pour oser être heureux.
Oser être vous-même, ne pas laisser les autres vous dire comment être heureux, ça peut sembler bateau, mais cette phrase de Lali en dit long. Je retiens de tous ces témoignages qu'être heureux, c'est d'abord se connaître, et puis être compris et accepté dans toute sa singularité. Merci d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez pas à le partager, à nous faire part de vos commentaires et à mettre 5 étoiles sur Apple Podcasts. À bientôt !